Et le journal vous est présenté par Laura Laven. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Elle avait 11 mois à peine, une fillette est morte à l'hôpital de Strasbourg. Sa mère porte plainte. Selon elle, il y a eu des défaillances dans sa prise en charge. Elle a fait pas moins de 3 établissements de santé avant de recevoir des soins. Une enquête est en cours. Les salariés de Tati en colère. Ils étaient dans la rue aujourd'hui à Paris, mobilisés pour la première fois depuis l'annonce de fusion avec l'enseigne Jiffy. Eux ont plutôt l'impression de s'être fait engloutir. C'est emblématique des difficultés du secteur, selon les syndicats emblématiques des marques qui disparaissent les unes après les autres. Le budget de l'Élysée passé au crible, plus ou moins que François Hollande, plus ou moins que Sarkozy. Réponse dans ce journal avec la publication du rapport annuel de la Cour des comptes. Et puis du Tour de France à l'heure du contre-la-montre, Julien Alaphilippe remporte l'étape du football avec l'affiche de la soirée Sénégal-Algérie, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. On ira sentir l'ambiance qui monte à Alger.
France Inter.
Y a-t-il eu un manquement, une défaillance dans la prise en charge de cet enfant, une fillette de 11 mois morte d'un problème cardiaque à l'hôpital de Strasbourg à la fin du mois dernier? Sa mère l'a conduite d'hôpital en hôpital en vain de Mulhouse à Strasbourg. Les explications de Patrick Janton.
Le 27 juin dernier, la mère qui réside dans le sud de l'Alsace appelle le 18. Le médecin régulateur la dirige vers l'hôpital d'Alkirch où elle n'est pas acceptée faute de pédiatre présent sur place. Direction Mulhouse en ambulance, mais l'état de la fillette va se dégrader rapidement. Transportée dans la soirée en hélicoptère au CHU de Strasbourg, l'enfant va décéder peu après. Sa mère a déposé plainte.
J'ai besoin de tout savoir.
Daoulati Soufou.
Parce qu'avant, ils avaient dit que c'était de l'asthme. En arrivant à Mulhouse, le médecin l'a examiné, il m'a dit c'est de l'asthme. Je dis, médecin, ma fille n'a jamais eu de l'asthme. Et j'ai envie vraiment qu'on m'explique, j'ai envie de savoir ce qui est réellement passé. Parce qu'il y a une faille médicale qui est passée dedans.
Suite à l'autopsie, le parquet de Mulhouse a réclamé des examens complémentaires. Les intervenants de la chaîne de soins seront aussi entendus. La procureure Edwige Roux-Morizet.
À la fois, on cherche quelle est la cause exacte de la mort. Donc nous attendons effectivement le résultat de toutes ces analyses pour pouvoir faire une simple éventuellement avoir des conclusions un peu plus sûres, moins hypothétiques que celles du premier rapport d'autopsie qui nous est parvenu. Et en même temps, l'enquête se dirigera aussi sur la prise en charge de cet enfant.
L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Mulhouse.
Enquête qui se concentre à Mulhouse. Elle devra déterminer s'il y a eu ou non des défaillances dans la prise en charge de l'enfant. À Belfort, les salariés de General Electric sont inquiets. Ils réclament l'ouverture d'une enquête. 3 employés sont morts en 3 semaines, 2 crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Ils ont lancé une procédure de signalement pour danger grave et imminent concernant les employés de l'entreprise. Dans une lettre adressée au directeur du site, ils pointent du doigt les pressions subies par des salariés en cause, le plan social en cours. En région parisienne, les salariés de Tati mobilisés, unis contre le plan de restructuration qui touche leur magasin. Ils étaient ce matin sous les fenêtres du siège du repreneur Jiffy à la Plaine Saint-Denis où se tenaient des négociations. Pour Élodie Ferrier de la CGT Commerce et Services venus soutenir les salariés, la situation de Tati est emblématique des difficultés que rencontre le secteur en ce moment.
Prenez Conforama, prenez Castorama, Brico Dépôt, Flunch. Le commerce est très impacté. Et au-delà des emplois qui vont être touchés chez Tati, il y a les emplois aussi indirects derrière. Il y a aussi ceux qui travaillaient dans les entrepôts. Il y a un entrepôt qui ferme. Tati faisait aussi travailler d'autres personnes. Il y avait de la sous-traitance, il ne faut pas l'oublier. L'argent qui aurait dû être injecté pour développer l'enseigne, ça n'a pas été fait. Il y a des magasins qui sont vétustes. Les travaux n'ont jamais été faits. Si on veut développer quelque chose, on investit dedans pour que ça fonctionne. Là, ça n'a pas été le cas. Les repreneurs, eux, ils voient le côté financier, c'est comment ils vont pouvoir se faire encore plus d'argent sur une société qu'ils vont racheter. Peu importe le devenir de la société qu'ils vont racheter, c'est comment je vais en tirer le plus de profit. Voilà la stratégie de Jiffy. On récupère tous les locaux qui sont à des emplacements plus intéressants et puis tous les autres magasins, on les vire.
Au total, 189 postes sont menacés de fermeture. Et on va tout de suite sur le Tour de France, sa 13e étape, un contre-la-montre individuel de 27 km dans la ville de Pau. Et Fabrice Rigovert, c'est Julien Alaphilippe, le Français, qui a fait l'exploit. Il a terminé premier de l'étape.
Une victoire historique depuis 1987. Plus aucun Français n'avait réussi à remporter un succès d'étape dans un contre-la-montre sur le Tour de France. Et un certain Jean-François Bernard, 32 ans après. Et pour cet anniversaire symbolique des 100 ans du maillot jaune, Julien Alaphilippe a non seulement conservé la précieuse tunique, mais il a réussi aussi à accroître son avance sur tous ses rivaux. Vainqueur de sa 2e étape après Épernay, Julien Alaphilippe a dominé le vainqueur vainqueur sortant du Tour, Geraint Thomas, de 14 secondes. Très belle performance d'un autre tricolore, Thibaut Pinot, 7e à 49 secondes. En tête à chaque point intermédiaire, Julien Alaphilippe, eh bien, creuse l'écart en tête du classement général. Il possède maintenant 1 minute 26 sur Geraint Thomas. Et notez, eh bien, le retour à la 7e place de Thibaut Pinot à 3 minutes 22. Il faudra maintenant qu'il puisse conserver, Julien Alaphilippe, ce maillot dans les étapes de montagne et peut-être dès demain au sommet du Tourmalet.
Fabrice Rigobert. Plus que 3 heures avant la tant attendue finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Algérie-Sénégal, le coup d'envoi sera donné au Caire et l'ambiance à Alger est déjà à son... reportage à Alger de Leïla Berato.
On ramène la Coupe d'Afrique, on vire la mafia et voilà.
Plusieurs milliers de personnes manifestent pour un changement de régime dans le centre-ville de la capitale, comme Ismaël, 29 ans, venu avec ses amis. Ils ne parlent que de la finale de ce soir, mais ils n'ont pas oublié la politique.
Aujourd'hui on manifeste et le match c'est ce soir. Ce soir à partir de 7h on commence avec le match et on espère qu'on va ramener la coupe. Et après la coupe, on retourne protester, on recommence pareil.
Sur les trottoirs, aux côtés des drapeaux vert, blanc, rouge, les vendeurs ont désormais des maillots de l'équipe de football.
Les gens demandent Riyad Mahrez, Youssef Belaïli et Bounedja, mais aussi beaucoup Attal.
Abdennour, lui, regarde les stands un peu déçu.
Je veux acheter un maillot de l'équipe nationale, celui de Mbourhi, il n'est pas en vente. Les gens, ils veulent avoir Attal, Mahrez, Ben Sbaïni et tout. Moi, j'ai envie d'avoir celui du gardien, de Mbourhi.
Dans la manifestation, on chante en chœur « Vous ne nous aurez pas avec le ballon, la liberté coûte que coûte ».
Et en France, où le match devrait être très suivi également, les mesures de sécurité seront renforcées dans plusieurs villes. Rassemblement interdit à Nice et à Cannes depuis 16h. À Marseille, même dispositif qu'au 14 juillet lors des demi-finales. À Montbéliard, dans le Doubs, un couvre-feu a même été mis en place pour les mineurs de moins de 14 ans. C'est en début de semaine prochaine que seront rendus publics les 2 rapports sur le désormais ex-ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy. L'un sur ses dîners à Lassay, l'autre sur les travaux réalisés dans son ancien logement de fonction ministérielle. Et c'est dans ce contexte que la Cour des comptes vient d'éplucher et de publier son rapport annuel sur le budget de l'Élysée. La présidence avait tablé sur 105 millions d'euros de dépenses pour 2018. L'exercice se clôt finalement par un dépassement de près de 4 millions d'euros à 108,9 millions. Et l'Élysée a donc dû puiser dans sa réserve un rythme de dépenses plus soutenu, Yael Gauze.
Non, il n'y a aucun dérapage, minimise l'entourage du président. 2018, première année pleine du quinquennat, avec une activité forcément plus forte. On en revient au niveau des années Sarkozy. Après un quinquennat Hollande économe, je ne veux ni truffe, ni homard, ni caviar, avait dit le chantre de la présidence normale à son arrivée en 2012. Avec Emmanuel Macron, on est en moyenne 10% plus cher, mais avec des circonstances atténuantes, liées d'abord à la masse salariale, 6 agents de moins, mais qui coûtent plus cher. Problème, l'Élysée n'a pas la main sur les salaires. La plupart de ces agents étant payés par leur ministère d'origine que l'Élysée rembourse ensuite. Même remarque pour les déplacements, moins nombreux mais plus coûteux car souvent loin de la métropole. Enfin, la première dame et son budget, stable sur un an. Brigitte Macron, 4 fois moins dépensière que Bernadette Chirac. C'est le poste courrier qui flambe. Il a fallu faire travailler 7 fonctionnaires pour éplucher les 19 500 lettres reçues par la première dame. Dernière précision, à Brégançon ou à la Lanterne, le couple présidentiel rembourse ses frais de bouche, aucun texte ne l'y oblige.
Les explications de Yael Gauze. La sécheresse s'accentue et s'étend. 71 départements français sont désormais concernés par des restrictions d'eau. 24 de ces départements sont en situation de crise sur toute ou partie de leur territoire. Autrement dit, tout le monde est prié de faire des économies d'eau, particuliers et agriculteurs. Et ça ne devrait pas s'arranger puisque la canicule revient la semaine prochaine. On fera le point avec la météo à la fin de ce journal. Et puis lors du précédent épisode caniculaire fin juin, un record absolu de chaleur avait été atteint. Météo France l'avait accordé à la commune du Gard, Galargues-le-Montueux, où il avait fait 45,9 degrés. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'à la même date, le 28 juin dernier, la commune de Vérargues, à l'est de Montpellier, a atteint, elle, les 46 degrés.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
18h09 sur France Inter, le point sur la météo avec vous, Sébastien Léas, et il y a un risque d'orage sur l'ouest dès cette nuit.
Oui, Laura, la perturbation qui glisse actuellement entre la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais va devenir instable en cours de nuit et demain. Et une autre dégradation va aborder l'Aquitaine cette nuit. Demain matin, cette dégradation pluvieuse et orageuse va progressivement se décaler du sud-ouest vers le Massif central pour s'étendre vers la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes du Nord et le Grand Est demain après-midi et en soirée. Temps plus calme sur les régions méditerranéennes avec du soleil, mais tout de même des grisailles matinales sur le Languedoc-Roussillon. Quelques nuages bas peuvent d'ailleurs persister demain après-midi. Et puis avant la vague orageuse de l'après-midi, la façade est profitera d'une matinée ensoleillée. En revanche, sur l'ouest, c'est l'après-midi qui sera plus clément avec de belles éclaircies et un risque d'averse qui va s'estomper.
Et petite baisse des températures demain.
Oui, les maximales resteront quand même au-dessus des valeurs de saison. Il fera 22 degrés à Cherbourg et à Quimper, 24 degrés pour Lille, 26 degrés à Tarbes et à Nantes, 28 degrés pour Paris, Verdun et Brive-la-Gaillarde. On ira jusqu'à 30 degrés à Montauban, Marseille et Ajaccio, 32 degrés pour Lyon et 33 degrés à Strasbourg.
Merci Sébastien Léas.